France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Force d'entendre dire attention aux écrans pour les enfants, à force d'entendre attention danger, mais au fond, un peu sans savoir de quoi on parle. Le président de la République a voulu en janvier dernier installer une commission d'experts pour répondre à ces questions, pour évaluer réellement les enjeux. Eh bien, elle vient de rendre ses conclusions après avoir rencontré 150 jeunes et une centaine d'experts. Et ces conclusions, qui sont des recommandations parfois très précises, notamment avec ce qu'on appelle les bornes d'âge. Pas d'écran avant 3 ans, un usage déconseillé jusqu'à 6 ans ou fortement limité, supervisé par un adulte. Après 6 ans, ne pas lâcher la rampe, l'exposition doit rester modérée. Pas de téléphone portable avant 11 ans, l'âge d'entrée en 6e. Après 11 ans, pas de connexion internet sur son téléphone. Après 13 ans, pas d'accès aux réseaux sociaux, aux contenus illégaux. Et à partir de 15 ans, attention, nous sommes en majorité numérique, accès limité à ceux qui ont une conception éthique. Et on parlera de ce qu'on peut entendre à l'idée de réseaux sociaux éthiques. On ne parle pas forcément que d'écrans qui auraient des conséquences sur le neurodéveloppement. Là-dessus, les experts sont clairs et honnêtes surtout. Les études ne nous disent pas en l'état que l'exposition ralentit le développement neuronal. Mais ce rapport nous parle de manque de sommeil dû aux écrans, de sédentarité, donc d'obésité. Ce rapport, il nous parle de contenu, de ce à quoi les enfants sont exposés, des images violentes, des images porno, des images stéréotypées. Le rapport nous parle de biais cognitifs pour enfermer les enfants sur leurs écrans à des fins bassement économique. Et surtout, tout cela veut dire que limiter l'accès aux écrans pour n'en garder que le meilleur, c'est-à-dire ne pas continuer plutôt à leur nous donner accès à la connaissance et pousser aussi tous les acteurs de la société, les parents, les enseignants, les créateurs de contenu, les administrations, à balayer devant leur porte. Allez, les deux auteurs de ce rapport sont avec nous, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Camille est avec nous. Bonsoir Camille. On vous écoute. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, donc je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je suis née donc en 2000 et j'ai commencé à avoir mes premiers smartphones vers 13-14 ans. Donc ce n'est pas forcément comme les enfants d'aujourd'hui qui peuvent en avoir dès l'âge de 3 ans. Et avec mes amis, on avait une discussion récemment sur l'impact que ça avait eu sur nous-mêmes, voilà, depuis qu'on avait un smartphone, les changements que ça avait pu entraîner sur nous et notamment sur la concentration. On avait remarqué que depuis qu'on avait un portable, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus de difficultés à rester concentrée. Quand j'étais petite, je lisais énormément. Et là, bon, je lis toujours, mais beaucoup moins. Enfin, le soir, voilà, je vais être sur mon portable. C'est plus simple, entre guillemets, d'aller sur les réseaux sociaux plutôt que de prendre un livre, quoi. Et voilà, et même juste, tout simplement, ça a développé une vraie addiction au portable et voilà.
Et est-ce que, Camille, cette prise de conscience-là, y compris vous qui avez 24 ans, donc vous avez non seulement pleine conscience, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre téléphone, est-ce que vous vous êtes dit, ok, donc je le lâche plus souvent, ou je m'oblige à le fermer à partir d'une certaine heure, je m'oblige à reprendre un bouquin pour retrouver ce plaisir que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est quoi votre conclusion? Ou est-ce que c'est rude et difficile, en fait, de le laisser tomber, même pour vous?
En fait, c'est terrible, parce que d'un côté, on est conscient de cette addiction, et même, enfin, je regarde des documentaires, je lis des choses autour de ça. Et bien sûr, j'essaie de mettre en place des choses. Par exemple, j'essaie de ne pas regarder mon portable avant de dormir. Enfin, j'essaie de limiter mon temps. C'est paradoxal, mais il y a des applications qui existent pour ça. C'est vrai que ça reste difficile. Et je pense que c'est une véritable addiction, quoi. Après, il y a des moyens. On peut réussir à s'en distancer. Mais le portable est aussi devenu un outil de travail. Par exemple, en tant qu'étudiante, on l'utilise aussi pour travailler, etc. Donc c'est dur de totalement s'en détacher, quoi.
Alors, on va essayer de trouver le milieu, justement. Camille, merci beaucoup pour l'entrée en matière. Merci pour votre appel pour discuter ensemble et avec vous jusqu'à 20h. Il y a Servane Mouton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurologue. Il y a Amine Benyamina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et vous êtes addictologue. Et tous les deux, vous co-présidez cette fameuse commission écran dont on parlait. Vous en avez rencontré beaucoup des Camilles, en fait. Amine Benyamina, il y en a eu 150 des jeunes que vous avez rencontrés.
Alors Camille a 24 ans, on a rencontré plus jeune.
Okay.
Mais les témoignages comme Camille, on les connaît. Et je dois vous dire que Camille a 24 ans, elle est pratiquement une génération qui est à moitié épargnée. Parce que nous avons des plus jeunes que Camille, et là la question se pose avec acuité. Est-ce qu'elle a témoigné? Et somme toute, quelque chose d'assez, hélas, banal. Il y a un élément intéressant, c'est qu'elle a pris conscience, elle dit, de mon addiction à l'écran. Évidemment, la notion
Bah vous êtes addictologue. Est-ce que c'est le mot que vous employez aussi pour les écrans ou pas? Alors, ou est-ce qu'on va un peu vite
C'est-à-dire, si vous me demandez en tant qu'académique s'il y a une addiction aux écrans, je vous dis c'est pas l'écran qui pose problème, c'est le contenu.
Ouais.
Et puis on a une classification qui parle du jeu, par exemple. En revanche, lorsque vous me titillez un tout petit peu sur le mécanisme par lequel les réseaux sociaux ont construit une économie de la captation...
Les fameux biais cognitifs dont vous parliez, ça pour le coup...
Complètement. On vient stimuler un système qui est le même que celui que stimule le tabac, l'alcool ou le cannabis. Donc on est sur une démarche où plus on est sur l'écran et plus les concepteurs de cet algorithme et de ce programme gagnent de l'argent pour faire court.
Mais est-ce que c'est ça, Servane Mouton, et peut-être qu'il faudra essayer de le définir pendant cette émission, est-ce que c'est le temps passé qui pose problème ou est-ce que c'est ce à quoi on est exposé, donc le contenu? Alors vous allez me dire les deux, mon capitaine, mais quand même, est-ce que au fond c'est vraiment le fait de passer du temps qui pose problème ou c'est le fait que on, comme le dit Camille, on se vide le cerveau à regarder un peu n'importe quoi?
C'est quand même un petit peu les deux, mon capitaine, en effet. Et après, il faut réintroduire la notion d'âge et d'équilibre avec aussi d'autres activités. Le processus addictif en lui-même n'est pas lié au temps qu'on y passe, puisque il implique, et Amine en parlerait mieux, mais le fait d'activer le système de récompense donc et d'être en permanence en train de lutter contre l'envie d'y aller, une espèce d'obsession envers vers cette source de plaisir, etc. Donc et ça, on peut, je sais pas, quelqu'un qui a un problème d'alcool va avoir peut-être résisté à ne boire qu'un seul verre, mais il pensait en permanence il est quand même addict à l'alcool. Alors, encore une fois, le lien avec l'addiction aux réseaux sociaux est peut-être aujourd'hui trop précoce, on n'a pas à être reconnaissant, mais en tout cas, on entend ce type...
Ça permet de bien comprendre effectivement ce que vous êtes en train de nous expliquer. Est-ce qu'on parle de la même chose pour les parents qui nous écoutent, Amine Benyamina? Est-ce qu'on parle de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, par exemple, de ce qui peut être addictif, les réels, etc., qu'on voit défiler? Ou est-ce qu'on parle aussi d'un dessin animé sur un iPad, par exemple? Est-ce que ça dit la même chose, ça?
Alors, ça dit peut-être pas la même chose, mais les dommages liés à l'écran sont tout à fait comparable. Le dessin animé sur écran, vous l'avez dit d'entrée de jeu, d'ailleurs on peut partir, vous avez tout dit, hein, au passage, Fabien.
Allons-y.
Vous avez tout dit.
Allons boire un coup.
C'est ce que nous avons évidemment découvert, peut-être pas Servane mais moi en tant qu'addictologue, c'est tous les effets liés au produit, c'est-à-dire la lumière bleue, l'absence des difficultés de concentration, le fait de commencer tôt et devenir perturbé en quelque sorte, une espèce de développement naturel et physiologique du cerveau et des relations interpersonnelles. C'est tout ça. C'est tout ça. En vérité.
Il vient de toucher son portable. Parce qu'il sonnait. Voilà. Oh, allez-y.
Et donc, on a affaire à quelque chose de l'ordre de la perturbation d'un système physiologique qui normalement, en dehors du portable, a cette capacité à pouvoir aller tranquillement dans ce qui est naturel. Le cerveau grossit en étant stimulé par l'interaction.
Par exemple, c'est ça que je voudrais aussi souligner, que j'ai trouvé non seulement intéressant, mais surtout très honnête dans votre rapport. Il y a des choses dont on n'est pas sûr, c'est-à-dire les conséquences sur le neurodéveloppement. On peut pas dire, effectivement, il y a une conséquence sur le neurodéveloppement. C'est des choses, vous le dites, qui nécessitent d'être encore approfondies. Mais effectivement, ça n'empêche pas la lumière bleue, donc les problèmes de sommeil, donc les problèmes de concentration, donc la sédentarité. Donc tout ça, qu'est-ce qu'elle en dit, Servane Mouton, madame la neurologue?
Il y a quand même, sur le côté impact de l'usage des écrans chez les petits-enfants, la difficulté est d'aboutir à une relation de causalité. Mais aboutir à une relation de causalité, enfin, démontrer une causalité, ça prend du temps. Il faut des grandes cohortes, il faut temps, il faut de l'argent, etc. Ce qui a fait que pendant 100 ans, on n'a pas dit que le tabac était addictif et cancérigène et source de maladies cardiovasculaires. Le lobby nous disait, il n'y a pas de relation de causalité, vous parlez d'association. Peut-être que je fais un raccourci, mais pour certains points, en tout cas, des écrans, il y a cette dimension-là, qui est, on parle d'association entre une exposition excessive aux écrans et des perturbations du langage, de l'attention, des compétences socio-relationnelles, et on dit, on parle pas de causalité. Ok, mais il y a quand même beaucoup d'indices pour des effets, peut-être faibles, peut-être pas directement en lien avec l'usage des écrans, mais peut-être avec le fait que ça prend du temps sur des interactions, sur d'autres apprentissages. Mais en tout cas, il y a une association négative entre l'exposition aux écrans chez des enfants de moins de 5 ans, moins de 6 ans, et un moins bon développement cognitif sur le plan du langage et de l'attention, notamment.
C'est intéressant que vous avez fait la comparaison tout à l'heure avec l'alcool, vous faites la comparaison maintenant avec la cigarette, mais là aussi, moi aussi, j'y vois un lien. L'une des raisons pour laquelle on a mis autant de temps à dire, oui, la cigarette est très dangereuse pour la santé, même elle battu, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de lobby derrière. Oui, et quand on regarde comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui, etc., on se dit que la difficulté sera au fond la même pour pouvoir dire oui, il y a danger à ce moment-là. On va écouter deux de nos auditeurs l'un après l'autre. C'est d'abord vous, Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir, je vous appelle donc pour la raison suivante. Alors, ça aura peut-être pas tout à fait de relation avec le sujet qui est un petit peu évoqué. Je vous explique. Je suis élu d'une commune de 750 habitants et l'équipe d'enseignantes, enfin le corps des enseignants, nous sollicite commune pour leur financer un tableau blanc, un TBI, un tableau interactif pour les écoles maternelles, donc de petite à grande section. Donc l'équipe municipale est assez dubitative. Oui. Personnellement, je suis quand même assez perplexe parce que la motricité fine pour apprendre à écrire, je pense pas que ça puisse faire par un TBI. Mmh. C'est le nouveau cadre. Donc voilà, je voudrais avoir l'avis de vos experts sur cette problématique-là.
Merci beaucoup, Jean-Michel. Questions précises et réponses précises dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute Victoria. Bonsoir, Victoria.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi, ce que je voulais souligner, c'est ce qu'on dit vos intervenants juste avant par rapport à l'addiction. C'est-à-dire que je suis enseignante et en effet, tout ce qui a été évoqué...
Et en maternelle aussi, Victoria, on est d'accord?
Oui, c'est ça. Okay, alors, je n'ai pas moi des maternelles, mais je suis dans une toute petite d'accord. école, donc mm-hmm. j'ai accès à ces élèves-là. Mm-hmm. Et en effet, on constate dès la maternelle que des enfants qui sont très régulièrement devant les écrans, parce qu'on le sait en discutant avec leur famille ou avec les enfants eux-mêmes, développent quand même des difficultés à entrer dans le langage, mm-hmm. à accéder au langage. Et émotionnellement, c'est des enfants qui ont plus de mal que les autres aussi à se contenir. Et en effet, moi, j'ai tendance à dire qu'on a l'impression qu'ils sont en manque. Après, j'ai pas du tout les compétences pour le juger, mais ça donne vraiment cette attitude-là mmh. d'enfant qui a besoin d'exploser.
Merci beaucoup, Victoria. C'est intéressant la comparaison avec le manque, Amine Benyamina.
Bien sûr,
que vous en pensez?
Oui, évidemment, le manque est un des mécanismes constitutif de la dynamique addictive, c'est ce qu'on appelle par un nom savant qu'on appelle le craving, le sentiment irrépressible de vouloir consommer ou de vouloir utiliser. Et puis ça ne, si on prend le temps de laisser passer ce manque, ça passe. Si on ne prend pas de laisser passer le manque, ben on reconsomme et on est dans une fuite en avant.
Alors c'est intéressant, donc deux auditeurs qui ont dans leur entourage ou dans leur travail des enfants très très jeunes. Il y a donc ce témoignage et cette crainte du manque dont nous parlait Victoria à l'instant. Et puis Jean-Michel, lui, l'élu dont les institutrices dans sa commune voudraient acheter un tableau, vous spontanément, un écran interactif, vous spontanément vous répondez ben non, en maternelle.
La réponse est dans le rapport qu'il peut télécharger sur le site de l'Élysée. Okay. Je vais laisser Servane
Mouton, allez-y.
Nous avons vraiment convergé sur cette notion que en maternelle, aussi par souci de cohérence avec le message qu'on délivre aux parents, c'est-à-dire pas d'écran en maternelle.
Et donc,
quel qu'il soit, pas de tablette.
Voilà.
Pas d'écran.
Et pour que les choses soient très claires, pas d'écran, ça veut dire pas d'écran, c'est-à-dire aucun. C'est pas de téléphone, mais voilà, c'est pas non plus de tableau interactif, c'est rien de tout ça. Ouais.
C'est parce que c'est en particulier en lien avec les impacts sur l'œil, sur la vision, et donc il faut en protéger les enfants de moins de 6 ans.
Ça s'appelle les bornes d'âge. Et alors, à quel âge on peut commencer un dessin animé, par exemple, encore une fois pour les parents, les jeunes parents qui nous écoutent?
C'est ce qu'on a mis dans le rapport, c'est-à-dire que avant 3 ans, on renforce la recommandation qui était déjà en vigueur de ne pas exposer les enfants aux écrans. Voilà, jusqu'à cet âge.
Quel que soit l'écran. Mmh.
Quand ça on dit écran, c'est tout, c'est la télé, c'est le smartphone, c'est la tablette, c'est voilà, pas d'écran. On peut développer, mais voilà, c'est la recommandation.
Il y a des alternatives qu'on propose, évidemment.
Oui, et après, entre 3 et 6 ans, c'est de dire que c'est déconseillé. En effet, aussi pour ces raisons somatiques, le côté visuel notamment, et puis pour le principe de précaution également, par rapport à ces alertes qu'on a sur le côté du neurodéveloppement, par rapport au fait que ces contenus qui peuvent stimuler beaucoup le système de récompense peuvent le perturber d'une certaine façon, et que plus tôt on est exposé à ce type de contenu, le plus de chances ou de risques aussi on a, si cette exposition est régulière, répétée, d'avoir cette appétence après pour retrouver ce type de contenu. Donc on a dit entre 3 et 6 ans, plutôt déconseillée, en fait.
Plutôt déconseillée.
Mais en sachant que probablement elle surviendra quand même, alors que ce soit accompagné par un adulte, avec des contenus à valeur éducative, et que ça reste occasionnel. Mmh. Clairement pas tous les jours.
Et c'est ça que vous dites aussi, hein, d'ailleurs, dans ce rapport, c'est qu'il faut responsabiliser tout le monde à la fois. C'est-à-dire, moi, ça m'ennuierait qu'on mette une pression terrible sur les parents, les pauvres, parce que parfois c'est quand même très compliqué, mais il y a les parents, évidemment. Il y a l'éducation nationale, on en a touché un mot là avec notre ami élu, mais il y a les administrations, au fond, il y a l'éducation nationale, il y a tout le monde, en fait.
Non, mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République installe une commission, on a rendu un rapport, mais on est finalement un peu fasciné par ce système qui est arrivé très vite, qui s'est développé très vite. La technologie est devenue omniprésente, omnisciente, omnipotente. Elle nous a facilité la vie et petit à petit, on se rend compte qu'il y a quelques effets pervers sur lesquels il faut se réveiller. Et les enfants deviennent la cible, d'une certaine manière, d'un commerce de captation. C'est à ce moment-là. Et derrière ce commerce de captation, il y a toutes les problématiques sociales et sociétales qui en découlent, notamment, par exemple, la notion de vérité, de liberté, de fake news, de manipulation. Non, c'est tout ça qui est la conséquence d'un système qui a asservi une partie de notre société.
Et effectivement, on est là, pour le coup, sur les contenus également, et c'est important de parler aussi des contenus. Vous avez cette phrase en préambule, dites donc, c'est une sacrée phrase quand même, hein. Vous dites, après 3 mois de travaux, la commission a acquis la conviction qu'elle devait assumer un discours de vérité pour décrire la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et des conséquences sur leur santé, leur développement, leur avenir, mais aussi pour notre avenir, celui de notre société, celui de notre civilisation, peut-être même celui de notre humanité. Waouh !
Ben oui. Ben c'est, on a été...
vous dites que vous avez été bousculé,
oui,
en fait, en faisant l'étude.
C'est le sentiment que nous avons. Hein.
Si, enfin, la question du numérique est très transversale. On est bien forcé, obligé de faire ce constat qu'il est omniprésent et que cette omniprésence n'a pas été concertée, n'a pas non plus été réfléchie. Il a été déployé sur tous les plans, récréatifs, professionnels... du coup, il envahit les sphères privées et les sphères professionnelles, intime, l'espace public. Enfin, tous les espaces sont occupés par le numérique sans qu'il y ait une concertation, une réflexion. Et l'enfant, et la place de l'enfant dans cet univers-là, comme dans d'autres endroits, on en a parlé un petit peu dans le rapport des rythmes scolaires, enfin, la vie, en fait, n'a pas été organisée en mettant le bien-être de l'enfant au centre des préoccupations. Et étant donné les enjeux qui se présentent dans la vie virtuelle, dans la vie numérique, qui sont en fait les mêmes que dans la vie réelle, sans qu'aujourd'hui il n'y ait aucune régulation qui les protège des rencontres qu'ils font, des contenus auxquels ils sont confrontés, force est de constater qu'ils n'ont pas été mis au centre des préoccupations. Et qu'aujourd'hui, ça devient une urgence. Nos enfants sont notre avenir, et leur avenir se joue maintenant.
Bonsoir Tiffaine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans cet été et qui a une partie de sa famille à l'étranger. Mmh. Et du coup, peut-être 2 à 3 fois par semaine, on fait des petites visios, alors pas forcément longues, mais pour lesquelles, du coup, il voit sa famille à distance. Pour le reste, on a banni les écrans, mais... il reste ça. Et du coup, bon, je pense que vous avez en partie répondu à ma question. Mais je me demandais s'il y avait une gradation du danger par rapport à l'usage en fait qui pouvait être fait.
Merci beaucoup Tiffaine. Moi je crois qu'on n'a pas répondu encore à votre question il y a vraiment une différence entre aller sur un écran, y compris on a bien compris ça pour un dessin animé, et pour parler à sa famille de temps en temps, on a au-dessous de 3 ans.
C'est sûr, mais... On l'a dit, accompagner, c'est la présence d'un adulte. Il y a une fonction particulière.
Mais même à cet âge-là, je veux dire, c'est pas le même genre de réaction qu'on provoque de toute façon chez un tout petit garçon ou une petite fille quand il voit ses grands-parents sur un écran.
Je crois que c'est si je dis pas de bêtises, l'Association américaine de pédiatrie a abaissé le seuil à 18 mois pour les visioconférences.
Même pour les visios, ouais.
On mettrait juste cette prudence par rapport à la vision. Donc, si ça a lieu, bien sûr, ça n'a pas le même impact que de voir un contenu, peu choquant, etc. Pas trop près des yeux, et puis pas très longtemps non plus, il y a quelques minutes.
En gros, la philosophie.
Ça reste du lien familial, voilà.
Philosophie, c'est que ce n'est pas quelque chose de banal et d'inoffensif. Il faut avoir conscience que cet outil qui s'est installé de manière pernicieuse et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune critique, peut porter en lui à la fois ce que l'on sait, c'est-à-dire la modernité, la facilité, mais vraiment une révolution pour l'humanité, mais en même temps, il y a ces aspects qui, de plus en plus, sont renseignés de manière claire et scientifique, avec des données probantes. Évidemment, on n'a jamais dit qu'il fallait retirer le numérique.
Bien sûr.
Tout à l'heure, on a remis le rapport, on a discuté avec
Non, puis vous dites aussi la source de connaissance que c'est. Enfin, voilà. Je veux dire, l'idée, c'est pas effectivement de
raisonner,
retourner au dictionnaire.
Raisonner.
On adore les dictionnaires.
Avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels on a des données précises qui sont délétères, et pouvoir les isoler et peut-être aussi réfléchir aux alternatives.
Question d'Amélie sur WhatsApp qui dit: comment on fait dans une fratrie avec des enfants qui ont des âges différents?
Bornage.
C'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
Ouais.
Bien sûr. Mais comme
qu'on
ça.
Qu'on habite dans un appartement qui fait trois pièces. Enfin, il y en a qu'une où il y a la télé, où il n'y a pas. Enfin, vous voyez.
Comme ça, en tout cas, en médecine et globalement, quand on veut protéger, on prend la vulnérabilité du plus vulnérable. Donc,
c'est le niveau se calme sur le plus vulnérable.
Voilà.
Si on a des enfants qui ont 8 ou 10 ans et sur lesquels on peut réguler, on leur dit: ouais, mais toi, t'as un petit frère qui a 2 ans, donc tu n'auras pas de téléphone, tu n'auras pas de tablette et tu ne regarderas pas la télé, c'est rude.
Bah, en tout cas, tu ne le feras pas en présence de ton petit frère et tu ne le feras pas quand il est à côté de toi, ou tu iras t'isoler, ou je m'occupe du petit frère. En tout cas, il faut trouver des solutions. Les écrans n'ont pas toujours été là. Les fratries existaient déjà avec des activités variées. Et je pense qu'il y a juste cette prise de conscience pour reprendre le contrôle de ces usages. Ça n'est pas.
C'est ça l'idée. Je ne voudrais pas qu'on culpabilise en fait les parents qui ont des enfants qui ont une douzaine d'années, etc. Enfin voilà, et qui font un peu attention. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, et j'entends exactement ce que vous dites. Et vous êtes neurologue. Enfin, vous savez exactement de quoi vous parlez. Et après, j'imagine dans l'appartement d'Amélie, par exemple, qui vient de nous appeler, il y a trois enfants, il y a une pièce principale, il y en a un qui a 13 ans, qui a eu son portable. Enfin, c'est compliqué, quoi.
On raisonne
avec la norme. On peut pas nier que c'est compliqué.
On raisonne là, autour de cette table, avec la norme actuelle, c'est-à-dire il n'y a pas de critique. Il n'y a pas critique à avoir au sujet du numérique parce qu'il nous amène tellement de bienfaits, tellement de facilités. Le principe de dénormalisation, il faut l'intégrer comme on l'a fait pour le tabac. J'avais pris cet exemple. Il y a 20 ans, qui aurait pensé qu'on allait éviter le tabac partout?
J'entends
y compris dans les espaces extérieurs.
On est tous partis en vacances avec des parents qui fumaient et avec les vitres étaient fermées. On ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on se la pose.
Complètement.
On peut effectivement peut-être avoir une attitude différente vis-à-vis des écrans. On a Karim qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Karim, vous êtes...
Merci de prendre mon appel.
Et vous êtes pile sur une des questions qui est notée dans le rapport, allez-y.
Ah ben, je suis content alors. Ma question, en fait, c'est plus une remarque. J'ai un enfant qui est au collège, en 6e, à qui on a remis une tablette en arrivant en début d'année, à qui on demande le soir de regarder sur Pronote ses devoirs pour la suite de la semaine, et à qui on demande peut-être aujourd'hui de ne pas devenir addict aux écrans. Or, il l'utilise au collège, il doit l'utiliser le soir en rentrant, et à la fin, on me dit il ne doit pas les regarder.
Eh ben, c'est une vraie bonne question, Karim, merci beaucoup. Vous le mettez dans le rapport, Pronote, les ENT, les espaces numériques de travail.
On a questionné le ministère de l'Éducation concernant cette contradiction. On a même montré des limites des ENT.
Et Gabriel Attal dit qu'ils doivent balayer devant leur porte, fermer
complètement. Donc on a posé ce cadre et je pense qu'ils vont commencer à réfléchir parce qu'on l'a bien signalé dans notre rapport. D'ailleurs, les auditeurs peuvent aller le télécharger. La partie éducation et la partie ENT a été longuement débattue. Évidemment, il a fallu vraiment trouver des espaces, mais il y a quelque part une contradiction. Et pour ceux qui disent mais les ENT, Pronote, tout ça, c'est extrêmement important, on dit oui, mais dans un cadre précis, à des heures précises.
C'est ce que j'allais dire.
Des tâches précise.
Et il y a parfaitement moyen, on sait faire ça.
On peut paramétrer.
Exactement, de paramétrer, donc de dire que l'accès c'est entre telle heure et telle heure, jamais après telle heure, ou jamais avant, etc. C'est possible de paramétrer.
Bien sûr, et puis il y a des situations qui sont tout à fait utilisables par les enfants, qui disent, je rentre au collège, j'ai besoin d'un téléphone, parce que pour avoir mes notes, voilà. Donc là-dessus, il faut vraiment anticiper, réfléchir et se mettre en marche.
Et en parlant justement, quand vous êtes dans les bornes d'âge, vous dites qu'effectivement, à partir d'un certain âge, on peut accepter non seulement le téléphone, mais l'accès au réseau, mais simplement les réseaux sociaux qui ont une conception éthique. Et pardon, mais je ne sais pas ce que c'est un réseau social.
Ils existent, ils existent, évidemment. C'est ceux qui ne font pas.
Mais ce que ça veut dire clairement, c'est que c'est pas Facebook, c'est pas Twitter, c'est pas Instagram, c'est pas tout ça.
C'est un peu ça.
C'est là que l'intervient là, une régulation qui doit se faire à l'échelle européenne, qui a déjà commencé avec le DSA, qui est rentré en vigueur récemment, et qui vise à assainir les pratiques des plateformes qui, aujourd'hui, ne sont clairement pas éthiques. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, sous la forme d'une autorégulation et d'une volonté propre, clairement, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il y ait des contraintes, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des amendes. Et c'est un chemin qui est en cours.
Et c'est un chemin qui sera long. Des réseaux sociaux éthiques, s'ils existent, il faut qu'il y ait beaucoup de gens dessus. Parce que le principe du réseau social, c'est qu'on se parle les uns les autres. Donc, quand on est tout seul sur son réseau social, c'est beaucoup moins drôle.
Il y a les réseaux éthiques, il y a ceux qui existent maintenant. Et puis, il y a peut-être, on espère, avec le DSA en tout cas, la contrainte de ceux qui existent et qui sont déjà très populaires de s'aligner sur des designs éthiques.
Et qui ne tirent pas le profit sur l'économie de la captation.
On l'a vu récemment, par exemple, l'Europe a interdit cette fonctionnalité sur TikTok qui était « plus je regarde des vidéos, plus je gagne des points ». Exactement, TikTok Lite, donc preuve qu'effectivement, les choses parfois peuvent fonctionner. Baïja est à Bordeaux, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors ça tombe effectivement à pic par rapport à votre dernière intervention. Ma question portait sur le fait que, alors on faisait l'analogie avec le tabac, il a quand même fallu la loi E20 qui interdit la publicité du tabac, l'interdiction de fumer dans des lieux clos, etc., pour qu'il y ait une prise de conscience. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment des hommes politiques et quel est le pouvoir politique pour interdire toute utilisation abusive auprès des enfants, qu'ils soient en bas âge ou des ados, par rapport au fait que les GAFAM, c'est des puissances financières tellement énormes que je ne vois pas un État. Alors c'est vrai qu'il y a des limitations sur les fonctionnalités TikTok, la DSA, etc. Mais en fait, pour moi, c'est pot de terre contre pot de terre. Comment un simple citoyen, comment un homme politique, et quels sont les recours, puisque le rapport a quand même été commandé par le président de la République française, comment les hommes politiques, quels sont leurs moyens pour lutter contre ces puissances financières qui ont un poids tellement important dans l'économie des pays.
Merci beaucoup, Baïja, pour votre question. Et c'est vrai, Amine Benyamina, que c'est évidemment une bonne question. Vous pouvez faire toutes les préconisations que vous voulez. Est-ce qu'à un moment, y compris la puissance de l'État,
bien sûr. Alors, je suis moins pessimiste que je n'ai pu l'être il y a 3 mois. Quand on voit la mise en place du DMA-DSA, c'est déjà beaucoup. On contraint quand même des grandes majeures à payer. Et je pense que lorsqu'il y a un mouvement qui peut emporter, pas que la France, mais même l'Europe...
Il y a une réglementation européenne.
Oui, on sent quelque chose. Franchement, je suis moins pessimiste. Il peut y avoir un moyen de contraindre ces grandes majeures. Il y a le droit international qui est très clair. Il y a aussi les parlementaires européens qui peuvent aussi se saisir de ça. Et évidemment, je suis moins, je le répète, moins pessimiste que je n'ai pu l'être au départ.
Est-ce que vous êtes, Servan Mouton, j'allais vous demander si vous étiez aussi optimiste que votre collègue Amine Benyamina.
Je dis moins pessimiste, optimiste.
Enfin,
c'est
voilà,
peut-être...
pardon.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, et c'est ce qu'on a aussi beaucoup voulu faire ressortir dans le rapport, de quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que de l'État ou des États d'être efficace. Il faut que les solutions viennent de partout. Et l'État en est une. Enfin, l'instance étatique européenne, en l'occurrence, puisqu'à l'échelle nationale, clairement, on peut rien faire sur des multinationales. Donc, l'échelle européenne peut faire, et elle a commencé à faire. Mais les citoyens aussi peuvent faire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont interdits avant l'inscription.
Est
interdite.
Et normalement.
Dans
sauf
la
que
loi,
il voilà, y a rien, rien de technique.
Je vais terminer.
Pardon.
L'inscription est interdite avant l'âge de 13 ans, sauf accord parental.
Ouais.
Et à ce moment-là, c'est 15. Si vous êtes parent et que vous constatez que les enfants, votre enfant est inscrit, que vous n'avez jamais donné votre accord, vous pouvez porter plainte. Si jamais un certain nombre de parents se mobilisent, se réunissent et font remonter ces plaintes, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle américaine, puisque ce sont des entreprises américaines essentiellement, ça peut finir par avoir des conséquences. C'est vraiment cette idée de reprendre le pouvoir sur des éléments qui... sans aucune vergogne, sont devenus, enfin des éléments des entreprises qui sont sans aucune vergogne, sont devenus les entreprises les plus puissantes que la Terre ait jamais portées, au détriment, ou en tout cas sans aucun égard, pour la santé et la sécurité de leurs usagers. Nous ne sommes pas impuissants face à ça en réalité.
On parle de cette commission écran rendue aujourd'hui, qui a rendu son rapport aujourd'hui avec les deux coprésidents, Amine Benyamina, avec Servan Mouton dans le téléphone sonne. Et avec vous Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à vous inviter et merci pour les émissions de France Inter et la vôtre en particulier.
Donc moi j'ai téléphoné ce soir parce que votre thème c'est le danger de l'usage des écrans pour les enfants, mais je voulais aussi parler du danger pour les enfants de l'usage des écrans par leurs parents. Mmh. Et j'ai été témoin d'une scène dans un train où par quatre fois un enfant a posé une question sur un assemblage de lettres. C'était « Maman, qu'est-ce que ça fait R et P ?» Mmh. Et qui a dû renoncer à sa question parce que la maman sur son téléphone ne répondait pas. Mmh. Et j'ai trouvé ça absolument dramatique. Mmh.
Merci beaucoup Catherine pour votre remarque. Elle a raison, Amine Beniaminia. Catherine, ouais. Et quand on parlait de la responsabilité de chacun, c'est ça que ça veut dire en fait.
Ben oui.
Ça veut pas forcément dire interdiction, etc. Ça veut dire je me rends compte d'eux et je change aussi ma propre relation à l'écran.
Complètement. Il y a des termes pour définir cela. C'est la technoférence. Ça s'appelle la technoférence. Mmh. Et puis les adultes sont victimes de technoférence. Ils oublient qu'ils sont un mauvais exemple pour les enfants.
Quand un adulte prend un livre, un enfant a envie de prendre un livre.
Complètement. On a un effet modèle, de fait, notamment les parents. Et on doit, comme vous l'avez dit, balayer chacun devant sa porte. C'est la réalité. Il y a quand même un impact sociétal qui est absolument édifiant.
Vous avez rencontré, vous dites, à peu près 150 enfants. Moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils vous ont dit et surtout ce qu'ils vous ont dit quand ils se sentent prisonniers eux-mêmes, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qu'ils ont déjà pu réaliser, y compris quand ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans ?
Mais ils ont conscience qu'ils sont un peu captifs de ce système. Ils demandent d'être aidés. Évidemment, c'est une demande qui est un peu ambivalente, mais qui a été formulée. Ils ont conscience de ça.
Ils demandent à être aidés, en effet, d'être protégés contre des contenus qui les ont choqués. Beaucoup expriment d'avoir été confrontés à des contenus pornographiques, violents, qui les ont plus que choqués, qui les ont blessés, qui les ont meurtris en réalité. Et qui regrettent, bien sûr, que ça ait lieu, et qui appellent à ce que une protection soit efficace pour les plus jeunes, pour leurs petits frères, pour leurs petites sœurs. C'est quelque chose qui est exprimé.
En gros, ce qu'ils vous disent, c'est trop facile d'avoir accès à des choses qui sont dingues. Pourquoi est-ce que moi, j'arrive à avoir accès à ces choses-là ? Protégez-moi de ça.
Je ne devrais pas y aller.
Oui, exactement. Je ne devrais pas y avoir accès, j'aurais pas dû le voir.
Ouais. Je cherchais quelque chose sur une femme toute nue, et je tombe sur un contenu porno. C'est pas ça que je voulais voir. L'autre chose qui...
La curiosité est inhérente à cet âge de la vie, en même temps.
Et qu'il faut qu'il y ait
aussi, il faut une réponse là-dessus.
Une autre chose qui était importante aussi, c'est la question des stéréotypes de genre, l'image de la femme qui est véhiculée par les réseaux sociaux et qui a été très marquée dans les entretiens avec une image en fait soit dégradante ou dégradée, soit une forme de soumission avec des filles qui exprimaient clairement qu'elles ne se comportaient pas de la même façon parce qu'elles avaient été confrontées à le renvoi de leur image, etc. Enfin, quelque chose qui est très fort.
Marianne, au Standard, nous pose cette question que j'avais sur le bout de la langue tout à l'heure et que j'ai oublié de vous poser. Merci Marianne. Est-ce que pour le cinéma, c'est pareil pour les autres que pour les autres écrans ? Est-ce que ce sont les mêmes recommandations ? Il y a quelque chose d'incroyablement festif à montrer à un enfant, même plus petit, son premier moment de cinéma, l'expérience du grand écran, etc. Est-ce que ça rentre dans vos cases ? Ou est-ce que là aussi, on se dit non, reculez ?
Pour nous, le cinéma...
C'est toujours quelque chose d'exceptionnel en plus.
Le cinéma reste avec la même règle pour les 6 ans, ne serait-ce que pour les contenus qui, en général, doivent être quand même ajustés à ce que l'enfant est, au côté impressionnant, etc. Donc ça restera la même règle. Après, il n'y a pas les mêmes enjeux en termes de sédentarité, de vision, etc. Simplement parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel, généralement, le cinéma. Donc ça reste une sortie, ne serait-ce que par son coût, qui limite son usage.
On a Frédéric qui est à Oslo, dites-moi, apparemment. De la même manière que sur les paquets de tabac, il y a des messages d'alerte. Est-il possible d'afficher des messages virtuels, des messages virtuels d'alarme, sur nos téléphones, par exemple ?
C'est pas impossible.
Ça existe déjà,
surtout dans les pays scandinaves. Je pense qu'ils ont fait une très grande marche arrière.
Ah c'est pour ça que Frédéric nous appelle d'Oslo.
Très grande marche arrière là-dessus.
Mais est-ce que c'est marqué sur les... Vous achetez un smartphone, c'est marqué sur le paquet du smartphone, ou est-ce que il peut y avoir de temps en temps, quand vous dépassez, j'en sais rien moi, 4 heures d'exposition par jour, un truc qui vient et qui dit attention, trop d'exposition tue.
Il y a déjà des alertes qu'on peut configurer pour être informé en effet quand on dépasse le temps qu'on s'était fixé. bon, elles ont quand même leurs limites. Généralement, on dit OK, on les switch, enfin, on les fait passer et puis on continue. Mais en tout cas, elles existent. Après, il y a des propositions de loi qui ont été faites par rapport à l'inscription sur des produits numériques d'une mention déconseillée au moins de 3 ans ou déconseillée au moins de 6 ans. Et là, on propose pour les smartphones ne convient pas à un enfant de moins de 13 ans, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, mais en tout cas qui sont possibles, qui peuvent être contournées si le produit est acheté sur Internet, etc. Mais il y aura, de toute façon, il y a des fuites possibles de tous les côtés, mais plus on met de balises et de barrières, de protection, plus on sera efficace à l'échelle systémique.
Ça fait des barrières pour cette économie nouvelle.
Et une prise de conscience quand aussi. Les collective. Parents, effectivement, collective être, et surtout quand les parents ou même les institutions, bien effectivement, sûr. On entendait cet élu tout à l'heure, savent pas très bien où il faut se situer, où il faut dire oui, il faut dire non. Au moins, avec votre rapport, ça les aide à avoir quelques notions. Nathan, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour vos émissions tout d'abord. Moi j'ai 20 ans, je suis en double licence économie philosophie à Nancy et je voulais vous parler un petit peu de tout ce que je vois autour de moi. À la faculté, dans le bus, dans le train, aussi avec mes amis. On voit que le téléphone est devenu complètement incontournable et vraiment on en a des usages qui sont vraiment très différents tous. Et moi, je sais que depuis un an, j'ai pris la décision de tout fermer. Vraiment, j'ai fermé tous mes comptes, j'ai arrêté l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée, je m'entends en boucle.
Ah oui, c'est vrai, je suis désolée. Oui, ça doit être très très désagréable.
Oui, du coup, j'ai un peu de mal à parler, mais je vais y arriver quand même.
C'est peut-être parce que, vous avez la radio est pas loin, non?
Non, bah non, vraiment, écoutez, j'ai tout coupé autour de moi.
Mais on vous comprend bien, Nathan, respirez.
Ok, bon, bah, c'est essentiel. Donc voilà, je disais que oui, on en a une utilisation qui est très différente et je vois que beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes, surtout dans le bus, ont maintenant des écouteurs, sont rivés sur les réseaux sociaux tout le temps. Et je renvoie d'ailleurs aussi à une émission que vous avez faite en mars 2024 sur justement l'impact des réseaux. Sur la santé mentale, et sur la santé mentale des jeunes, et sur le fait aussi que les réseaux sociaux en avaient profité pour renforcer leurs offres, avec le confinement, avec les Reels Instagram qui ont été créés en juin 2020, et puis les Shorts de YouTube qui ont été créés en septembre 2020. Et moi, ma question, c'était comment est-ce qu'on peut distribuer la responsabilité de, justement, tous ces contenus? On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, on a les plateformes, les États, on a les parents et surtout les créateurs de contenu. Est-ce qu'on peut les responsabiliser, justement, ces plateformes et ces créateurs de contenu? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Et puis aussi, sur les solutions proposées, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, les empreintes bancaires, les pièces d'identité, pour vérifier si, justement, les tranches d'âge étaient respectées. Mais est-ce que là, il n'y aurait pas, justement, un risque pour la sécurité de nos données?
Et merci beaucoup Nathan, et vous avez raison, et c'est pour ça pour l'instant par exemple, parce que y compris sur les sites porno, l'idée de l'empreinte de la carte, on se dit bah c'est facile, on n'a qu'à faire ça. L'une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est que effectivement attention aussi à ça, attention aux fuites de données, attention à la CNIL qui fait bien son travail bien aussi, etc.
Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les solutions techniques sont tout à fait sans doute existent, et on a le sentiment qu'il y a une mauvaise foi de la part des promoteurs pour les mettre en musique et les mettre en marche. Hein.
Sur un site porno, vous pensez qu'on pourrait interdire réellement l'accès aux mineurs si on le voulait?
Ça va être fait. Il y a des l'Arcom a diffusé son comment ah mince. C'est pas règlement, c'est son référentiel pour la mise en place du contrôle d'âge. Donc si c'est fait pour les... Ça peut être fait pour les moins de 18 ans, ça pourrait être fait pour les moins de 15 ans, ça pourrait être fait pour les moins de 13 ans.
Complètement.
Ça pourrait être fait pour
Et pour répondre à la question de Nathan, et alors c'est vrai qu'on en avait fait une émission, on a même fait une journée spéciale à un moment, des créations de contenu qui sont bons et qui ne sont pas addictifs et qui ne sont pas...
Ça existe.
Mais effectivement, ce ne sont pas les grands mastodontes dont vous parlez, Servan Mouton, et on peut comprendre que les enfants, les ados aient envie d'être sur le même mastodonte que tous les amis. C'est là la difficulté.
Il y a le problème du format qui est poussé par ces plateformes, qui a été en effet vers les shorts, les très courtes vidéos qui sont en fait très efficaces pour capter l'attention. Après, sur la question du contenu en lui-même, ça pourrait être considéré comme un design non éthique, peut-être régulé via le DSA. Un petit peu de temps, et par contre sur le contenu c'est tout l'enjeu de la modération, avec la mise en œuvre de moyens adaptés au nombre d'usagers et autres que l'intelligence artificielle.
J'encourage nos auditeurs à le lire votre rapport, et encore une fois ce sont des recommandations, ce sont des recommandations, et ça permet aux gens de pouvoir se situer aussi dans leur famille, dans leur pratique et par rapport à leurs enfants. Merci beaucoup tous les deux, merci vraiment de votre présence, merci à tous pour vos nombreux appels.